Je vais inviter Vincent Kaufmann à venir à mes côtés pour un exercice toujours compliqué de synthèse de cette riche journée où il s'est dit beaucoup de choses, où il s'est partagé également beaucoup d'expériences. Mais je vous ai vu, Vincent, fort attentif tout au long de cette journée, noircissant votre carnet de notes. Et peut-être pouvons-nous essayer de voir ce que vous avez retenu de ces échanges et ce qu'il faut peut-être garder justement en tête à l'heure où l'on va bientôt se quitter. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que finalement il y a des points qui vous ont frappé parce qu'ils vous ont surpris. On appelle ça, les Japonais adorent ce terme, les rapports d'étonnement. Vous savez, votre rapport d'étonnement par rapport à ce qui s'est dit, quel est-il ?
Oui, alors peut-être avant de commencer, donc c'est toujours un exercice difficile, hein, la synthèse, comme vous venez de le rappeler. Puis c'est le moment où on ne se fait pas que des copains, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout redire. Il y a des choses qui nous frappent plus que d'autres. Donc soyez indulgents avec... Avec moi, j'ai pris toute une série de notes. Vous voyez que j'ai noirci une page et demie. J'ai noté toute une série de points. Et effectivement, les points sur lesquels j'avais envie de revenir peut-être pour commencer, c'est sept points. Alors, je ne sais pas si c'est des étonnements ou si c'est des constats importants ou des choses qui m'ont frappé. Mais moi, j'en ai noté sept de cet ordre. Donc, c'est plutôt des choses qui sont factuelles, qui sont issues de différentes analyses qui ont été présentées. Alors peut-être la première chose, c'est un chiffre, je crois, qu'a cité Léa Marzloff ce matin. 42% des Français estiment avoir le choix de leurs moyens de transport. C'était issu d'une enquête menée avec l'Obsoco très récemment. Donc ça veut dire aussi que 58% de ces mêmes Français n'ont pas ce choix. Et pour leur grande majorité, si je me souviens bien ce que vous avez dit, sont condamnés à l'automobile. Voilà, ça c'est un constat que j'ai trouvé très, très frappant. C'est le premier point sur lequel j'avais envie de revenir, parce que ça a des implications très fortes sur les temps de déplacement quand on conduit. Ça, on l'a dit de multiples manières pendant cette journée, c'est difficile de pouvoir utiliser son temps. Ce taux, en plus, il est élevé en comparaison européenne, vous l'aviez aussi montré. Donc ça, c'est un premier... Je ne sais pas si c'est un étonnement, enfin, c'est un chiffre qui, moi, me paraît important. Deuxième aspect sur lequel j'aimerais très brièvement revenir, alors c'est des choses dont j'ai un petit peu parlé hier soir, mais qui ont un petit peu retraversé les débats aujourd'hui. J'essaye d'enlever ma montre, je l'enlève vite, hein. J'aime bien la voir sur une... Oui, c'est une montre...
C'est vrai, vous avez voilà. raison de préciser ce détail
et puis,
important.
voilà, c'est une montre automatique. Enfin, vous voyez, le temps est un peu différent sur cette montre, hein, puisqu'on parle de temporalité depuis une journée. Oui, donc deuxième point sur lequel je voulais brièvement revenir concernant ces constats ou ces étonnements. Bon, cette question de l'aspiration à se déplacer autrement, hein, c'est des choses, on sent un frémissement, il a été abordé de différentes manières. Il est aussi sans doute contenu dans ce chiffre que je viens de reciter, ce 58% de personnes qui n'ont pas le choix, qui estiment ne pas avoir le choix de leurs moyens de transport. Voilà, on a quand même une part importante de la population qui souhaiterait pouvoir se déplacer autrement. Troisième constat, je vais assez vite, hein, parce que sinon on n'arrivera jamais au bout.
C'est bien l'idée.
La multipolarité rurale, telle que nous l'a présentée rapidement Éric Charréron, me semble être quelque chose qui est très, très important et qui rend difficile, hein, de penser des territoires, certains territoires, autrement qu'avec l'automobile. Et c'est un constat. On a toujours ce tropisme un peu métropolitain des grandes villes. On parle un peu toujours de cette même partie du territoire. D'ailleurs, ce n'est pas propre à la France. Si vous allez à des colloques similaires en Allemagne, en Belgique, en Italie ou en Suisse, vous aurez aussi ce tropisme-là. Donc, c'est important, je crois, de se souvenir que finalement, et ça, Éric Charréron nous l'a montré très finement, que bah, finalement, voilà, il y a des territoires, des parties entières du territoire qui ne sont pas dans ces situations, et que même une majorité, nous a-t-il rappelé, de la population française y réside. Donc, ça, c'est un troisième point qui me paraît important. Quatrième point, voilà, cette question des pressions temporelles. Pression temporelle, c'est un mot qui est ressorti pendant cette journée de différentes manières. tantôt sous ce terme-là, tantôt sous d'autres mots, le stress, le burn-out, l'épuisement, le fait que la vie quotidienne est de plus en plus intense. Voilà, c'est quelque chose, je crois, qui est important. Dans ce que je vous ai montré très brièvement ce matin, en me faisant le porte-parole de mon collaborateur Guillaume Drevon, j'ai essayé de vous montrer que finalement, ce sentiment de stress, cette pression temporelle, il n'est pas facilement identifiable dans les patterns de déplacement. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution des déplacements depuis les années 90, ce n'est pas absolument évident de l'identifier en nombre de déplacements, en distance parcourue, en nombre de retours au domicile. Et donc, ça nous indique quelque chose, je crois, qui est assez important, c'est que c'est corrélé avec cette question des objets connectés. Est-ce qu'on pourrait peut-être appeler cette tyrannie de la fausse proximité, c'est-à-dire qu'on est sans cesse interrompu, on fait trois choses à la fois, et peut-être encore plus que la question des déplacements, c'est cette espèce d'intensité du temps, ce stress du passage permanent d'une sphère d'activité à l'autre qui renvoie à cette pression temporelle. Et je crois que ça, c'est une observation qui est ressortie également de nos discussions de différentes manières aujourd'hui.
Cinquième point,
l'émergence de cette catégorie de grands mobiles qui sont souvent des personnes qui sont contraintes, qui sont très hétérogènes. Peut-être un point particulier sur cette catégorie, ce ne sont pas que des cadres supérieurs qui gagnent très bien leur vie. Contrairement à, peut-être à l'icône qu'on a dans la tête, c'est aussi lié à la précarité, c'est lié à des situations qui ne sont pas nécessairement évidentes, qui sont d'autant plus mal vécues qu'elles se déroulent dans des situations financières et des conditions de transport qui sont difficiles. Donc ça, c'est un cinquième point sur lequel il me semblait important de revenir. Sixième point, les temps de mobilité deviennent idéalement des temps pleins. On aimerait bien que ce soit de moins en moins des temps, des espèces d'interstices dans la vie quotidienne. Ça aussi, c'est ressorti de différentes manières. Peut-être qu'il n'y a pas lieu d'y revenir plus longuement. Et puis septième point, cette aspiration peut-être à une vie différente et au ralentissement, qui est peut-être une réponse à cette tyrannie de la fausse proximité. Mais regardez là, on a l'impression d'être ensemble dans cette salle. On est quoi? On est 60 peut-être, 50-60. Mais, et je le faisais aussi tout à l'heure, combien d'entre nous sommes connectés à un réseau en train d'envoyer, je ne sais pas, sur Twitter un truc ou en train de répondre à un email? C'est pas une proximité complète. On n'est pas dans la coprésence uniquement. Certains d'entre nous, à certains moments, on est là sans être là. On est là par intermittence. On clignote d'une certaine manière. Et c'est ça dont il s'agit. Et c'est aussi ça qui, en termes de temporalité, nous stresse, indépendamment du fait qu'on se déplace ou pas. Là, on est tous dans cette salle, on ne se déplace pas. Et voilà, donc ça me paraît vraiment être quelque chose d'important, et moi je le mets en lien avec cette aspiration au ralentissement. Donc voilà, sept constats qui sont partiellement des étonnements, partiellement des constats.
Quels sont les enjeux, finalement, au terme de cette journée où l'on s'est arrêté sur cette articulation entre le temps et les mobilités? On voit bien se dessiner quelques grands enjeux qui sont à la fois économiques, politiques, sociétaux peut-être. Qu'est-ce que vous retenez?
Alors moi, j'ai retenu des enjeux. Alors on pourrait revenir sur des grands enjeux politiques très généraux, des enjeux macro. Moi, j'ai plutôt essayé d'identifier des enjeux un peu plus précis et micro. J'en ai identifié quatre. Alors ils sont dans l'ordre ou le désordre. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre. Le premier, c'est cette question de la synchronisation et de la désynchronisation des temps sociaux, avec cette centralité du travail qui est mise en discussion. Moi, j'avais un petit peu titillé là ce matin Éric Charéron pour qu'il revienne là-dessus, parce qu'on a entendu des choses qui sont peut-être parfois un petit peu paradoxales, c'est-à-dire que il y a des synchronisations, mais en même temps cette désynchronisation, elle est peut-être contrecarrée par des rythmes sociaux qui sont quand même très établis. La première séance qui commence à 9h le matin, le fait que l'école commence à une certaine heure, et quand on a des enfants, il faut aller amener les enfants à l'école pour cette heure-là, et que donc finalement ces rythmes ces rythmes liés au monde du travail ne concernent de loin pas que les personnes qui travaillent, mais de façon beaucoup plus large. Et donc, il y a un enjeu autour de la synchronisation, de la désynchronisation, mais qu'il n'est pas immédiatement. Voilà, il n'y a pas des solutions absolument simples. Alors, c'est clair qu'il y a la question du télétravail, il y a la question des hyperpointes, on en a encore parlé tout à l'heure, qui se lie à tout ça. Disons, là, on sent bien qu'on a un sac de nœuds ou d'enjeux autour de cette question de la synchronisation et de la désynchronisation. Deuxième point, j'ai entendu aussi beaucoup le terme de routine aujourd'hui. Et quand on a parlé de routine, et là aussi pour moi c'est un enjeu, c'est que c'était pour dire que les habitudes c'est difficile à changer, que les habitudes ça se remet en question à certains moments, notamment lorsque, si je reprends un langage de chercheur, lorsque on change d'étape dans le parcours de vie, on déménage, l'arrivée d'un enfant, un divorce, un nouveau travail, etc. Donc on repense peut-être ses mobilités, on repense sa vie quotidienne. Alors moi je pense qu'on est vraiment sur ces routines, sur quelque chose qui est ambivalent, parce que, alors bien sûr c'est difficile à changer, mais ce qu'on peut aussi se dire, c'est que quand on a réussi à les changer, eh bien, c'est pour de bon. Et donc, je pense qu'on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et moi, j'ai aussi envie de parler du verre à moitié plein en disant qu'il y a peut-être des moments particuliers, et c'est ces moments de transition dans le parcours de vie qui sont des moments clés sur lesquels on devrait beaucoup plus travailler. Est-ce que quand quelqu'un passe son permis de conduire, est-ce que finalement, ce n'est pas le moment de lui rappeler, par exemple, que les transports publics existent, et pourquoi pas lui offrir à ce moment-là un abonnement de libre circulation sur un réseau urbain pendant un mois, juste pour pas qu'il oublie ces petits gestes comme ça, ou quand des nouveaux habitants arrivent dans une commune, comment on les accueille en termes de mobilité? Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Ça fait longtemps qu'on sait que ces moments de transition dans le parcours de vie sont essentiels pour la prise d'habitude. Donc, travaillons-les particulièrement. C'est beaucoup plus facile d'agir sur ces populations en transition que sur une population qui a ses habitudes, parfois depuis longtemps, puis qui n'a pas franchement envie d'en changer.
Il y a des fenêtres de tir qu'il faut parader.
Voilà, là, il me semble qu'il y a une fenêtre de tir qui est intéressante autour des routines. Donc, c'est pour ça que j'en faisais aussi un enjeu. Troisième enjeu dont on a aussi beaucoup parlé, la question du confort, qui est un atout des transports publics, puisque pendant les déplacements, on cherche idéalement à pouvoir utiliser son temps. Ça redonne des couleurs au transport public par rapport à l'automobile. Ça pose comme un enjeu central la question du confort. Donc la question du confort, c'est évidemment la question de l'ergonomie des véhicules, de l'accueil à un arrêt, de comment, voilà, est-ce qu'on peut s'asseoir, etc. Mais c'est aussi la question de la continuité du déplacement. C'est la question de sa fluidité, de sa facilité, de sa simplicité. Donc voilà, je crois que ce mot confort, ça vaut la peine de lui donner un peu de corps. Et là, il y a, je crois, vraiment un enjeu autour de cette question du confort. Et puis, dernier enjeu, j'en ai identifié quatre, on aurait pu en identifier plus. La question, c'est peut-être pas un mot qui est beaucoup ressorti, mais je le redis de cette manière, la question de la redondance. C'est-à-dire, quand on a parlé du covoiturage, quand on a parlé, on n'a pas beaucoup parlé d'autopartage, mais on aurait pu faire le même genre de raisonnement, ou le vélo, on en a parlé comme des solutions qui peut-être n'étaient pas utilisées toujours, tout le temps. Donc ça suppose qu'il faut peut-être avoir d'autres possibilités de se déplacer aussi. Et parce que voilà, le covoiturage, il y a un jour peut-être où tout d'un coup le collègue avec qui on covoiture, il enchaîne, il va dîner chez un ami, donc il rentre pas chez lui, donc il faut pouvoir se retourner, il faut pouvoir s'organiser autrement, il faut avoir cette souplesse. Et donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui est essentiel dans cette conception peut-être de réseau de transport en lien avec des enjeux temporels. C'est finalement offrir de la redondance. C'est que, oui, on covoiture, mais c'est possible de rentrer en transport public, ou c'est possible d'avoir d'autres moyens de transport qui permettent de se retourner. Donc ça me paraît être un bon principe qui ne coûte pas d'ailleurs forcément très cher. Ça ne veut pas dire un investissement public massif, mais c'est peut-être un état d'esprit. Donc là, il me semble qu'il y a aussi un enjeu là autour.
Alors on a aussi, tout au long de cette journée, évoqué un certain nombre d'expériences, de solutions, d'expérimentations à l'échelle des territoires. Vous en avez retenu plus particulièrement certaines de ces solutions adressées à vos quatre grands enjeux ?
Alors moi, j'en ai identifié 5, oui, qui sont reliés à ces enjeux, mais pas complètement. Et puis, il y en a une que j'ai identifiée par défaut, parce que j'ai été étonné de voir qu'on n'en a pas parlé. Mais
je vous en
parlerai. Allons-y. Je voulais peut-être commencer par la question de la politique, on pourrait l'appeler comme ça, la politique des temps de la ville, dont on vient de parler à la dernière table ronde, avec la question du télétravail, des horaires décalés de travail. Ça me paraît être un enjeu absolument essentiel. Et on a vu des choses très opérationnelles et j'ai trouvé que c'était réjouissant. On a aussi vu, on a bien compris peut-être les difficultés qu'il pouvait y avoir concrètement lorsqu'il fallait mettre en place ces solutions. Ce n'est pas absolument évident, mais moi je pense qu'elles sont porteuses quand même même si elles pourront pas solutionner à elles seules la question de la congestion, par exemple. Je pense que ou la question des heures de pointe, c'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement importantes. Deuxième solution, elle a été relevée tout à l'heure, elle était aussi apparue d'une autre manière, c'est la question de la marche. La marche, j'ai entendu, il y a une explosion de la marche à Rennes, par exemple, entre les deux dernières enquêtes ménage-déplacement. La marche, c'est un moyen de transport qu'on oublie souvent, parce que bon, la marche n'est portée par aucun lobby, un peu par définition, à part peut-être Nike, mais bon...
c'est la course plutôt.
C'est plus la course, etc. C'est un élément d'intermodalité absolument essentiel. Je crois qu'Éric Charréron l'a relevé en parlant d'une expérimentation à Bordeaux. On peut désaturer des lignes de transport public très capacitaires saturées en centre-ville, parce qu'effectivement, et ça c'est classique, c'est pas seulement le cas à Rennes ni même en France, on le retrouve dans toute une série de pays européens, de villes européennes plutôt. Il y a quelques tout petits tronçons de 1, 2, 3 stations qui sont complètement saturées, et pour ça on va parfois jusqu'à doubler des lignes. Est-ce que vraiment il est indispensable d'accueillir sur le réseau des gens qui font 500 mètres, 1 km en tramway ou en métro? Donc là, la marche, je pense, a un potentiel énorme. Il ne faut pas oublier aussi une autre chose à propos de la marche, c'est que si on regarde de façon globale, un peu à la hache, hein, les enquêtes ménage-déplacement ces 20 dernières années, pas seulement en France, mais dans les principaux pays européens, le principal report modal que vous avez, il n'est pas vers les transports publics, il est vers la marche. Et ça, c'est quand on mesure en nombre de déplacements. Évidemment, quand on mesure en kilomètres parcourus, vous ne voyez pas grand-chose, parce que la marche, ça reste évidemment un mode de proximité. Donc la marche,
mais c'est bon pour la santé,
la marche est une solution qui est très importante, aussi parce que la marche, elle permet de retrouver peut-être une maîtrise de son quotidien. Et par rapport à cette question de la... du ralentissement ou de retrouver la maîtrise de sa vie quotidienne, c'est un élément qui est tout à fait intéressant. Troisième élément sur lequel je voulais revenir, alors la question de l'offre intégrée. Alors ça permet de reparler du MaaS, hein, Mobility as a Service, dont je me suis un petit peu moqué hier. La disponibilité spatiale, la disponibilité temporelle, l'information et la simplicité d'usage, c'est évidemment quelque chose, c'est ce qu'on pourrait mettre sous le terme générique offre intégrée, alternative à la voiture, c'est évidemment une solution qui est extrêmement importante. Alors moi, ce qui me semble essentiel, c'est que ce terme de MaaS ou ces offres intégrées, ça se résume pas simplement à une appli qui regroupe un certain nombre de moyens de transport, mais qui est un vrai travail derrière sur la qualité de l'offre. Ça ne sert pas à grand-chose de vendre des offres qui ne couvrent que très imparfaitement le territoire dans le temps et dans l'espace et qui finalement sont extrêmement complexes à utiliser au-delà du fait que simplement on a l'information. Et donc là, il y a vraiment, je crois, un enjeu.
Quatrième solution.
Quatrième solution, c'est celle que j'ai trouvée absente, et ça m'a étonné. Je l'ai appelée le territoire. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé du système de transport, on a un tout petit peu parlé du territoire quand il s'est agi d'évoquer les régions périphériques, hors agglomération, là je l'ai relevé dans mes étonnements, mais finalement on n'a pas du tout parlé de l'articulation entre les politiques de logement, les politiques d'urbanisme et les politiques de transport. Et ça m'a franchement manqué. Ça m'a franchement manqué parce qu'on a là un levier qui est quand même extrêmement important. Donc, pourquoi développer des offres de métro, des offres de tramway, des services de mobilité extrêmement sophistiqués si on laisse le développement urbain se faire dans d'autres périmètres autour d'autres moyens de transport comme l'automobile? C'est se tirer une balle dans le pied. Et ça fait longtemps qu'on se tire des balles dans le pied à ce niveau-là. Et donc, il me semble que c'est un thème qui est absolument essentiel. Et donc, si vous me permettez... J'ai vraiment envie de le remettre sur la table dans cette synthèse. Alors, ça concerne le logement, l'articulation. Est-ce que les logements, depuis les logements tels qu'ils se développent, est-ce qu'on peut partir à pied? Est-ce qu'il y a des choses qui sont accessibles à pied? Est-ce qu'on peut utiliser un vélo? Est-ce que les transports publics desservent ces lieux? Et puis, évidemment, ça concerne aussi toutes les activités. Bien sûr, les zones d'activité liées au travail, mais aussi toutes les autres activités.
Et il y avait un dernier point.
Il y avait un dernier point. Ben, je voulais revenir sur la question du débat citoyen. Peut-être pour terminer. Alors, je l'ai évoqué un tout petit peu hier en vous disant que le Forum Vie Mobile organise un débat citoyen sur les aspirations en matière de mode de vie et de ralentissement. Il y a des minons spécialistes de ces questions qui y ont contribué. Il s'agit peut-être d'amener une pierre à l'édifice de cette question des solutions à des politiques temporelles en lien avec la mobilité. Mais plus fondamentalement, ce que je voulais dire dans ce cinquième point, c'est que je crois que sur ces questions, on a besoin de débats. On a besoin d'écouter aussi. Finalement, c'est un grand sujet de société. Derrière ces questions de temporalité se cachent des grandes questions comme quelle mobilité veut-on demain ? Et jusqu'à présent, et je reviens encore une fois sur la question technologique et je finirai avec ça, jusqu'à présent, ça s'est résolu entre spécialistes au moyen souvent de technologies. En disant, pour résoudre un certain nombre, c'est une vision un peu technocratique. On se lance dans des innovations techniques. On compte beaucoup là-dessus ou de la réalisation d'infrastructures. Et je pense que c'est totalement insuffisant. On a besoin, je crois, pour répondre à cette question de quelle mobilité veut-on demain. On a fondamentalement besoin d'un débat de société qui part de la base et qui est absolument essentiel pour pas qu'on se laisse tous embarquer dans des projets technologiques, qu'il s'agisse du véhicule autonome, qu'il s'agisse du drone qui nous amène nos courses ou je ne sais quoi, et qui finalement mange énormément de ressources financières en termes de développement, y compris dans la recherche publique et autres, et ne résolvent finalement aucun des problèmes de mobilité qui se posent concrètement aux populations. Voilà, je m'arrête là. J'espère
Merci.
Que je n'ai pas trop trahi le contenu des débats. Je vous remercie pour votre attention. Et puis un très grand merci. Moi, ça m'a énormément nourri cette journée.
Merci beaucoup, Vincent Kaufmann, pour cette sagesse des alpages là, qui vous caractérise sur cette conclusion. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cette journée. J'invite tout de suite André Croquet, Katia Kruger pour la conclusion, vraiment le mot de la fin, avec un micro chacun.
Non, moi je vais juste annoncer.
Vous avez chacun votre micro.
Tu annonces juste la fin.
Oui.
Alors André.
Non, moi, sur les bons conseils de Guénel, j'aperçois au fond, vous allez être très fatigué après 17 heures. Donc moi, je vais faire 30 secondes top chrono. Je voulais vraiment tous et toutes vous remercier déjà d'être aussi assidus à ces rendez-vous. Féliciter encore les organisateurs à travers vous. Et puis moi, je voulais juste dire une question, comme ça, en vous écoutant hier soir et là, en seconde partie d'après-midi. Je ne sais pas si on se pose la question de la gouvernance du temps. Parce que moi, je me disais, par exemple, finalement, dans une entreprise, on va beaucoup parler des congés. On va se mettre d'accord, on ne prend pas tous nos congés en même temps. Mais pourquoi on arriverait forcément, dans certains cas, tous à peu près dans les mêmes créneaux horaires au boulot? Parce que ce que vous évoquiez tous, c'est une très bonne raison aussi d'avoir des contraintes avant ou pas de contraintes. À un moment de sa vie, avoir des contraintes et à un autre moment de sa vie, de ne plus en avoir. Et tout ça bouge. Et finalement, où est-ce qu'on régule ça? Il y a des fois où ça se régule, des fois, à mon avis, on ne se pose même pas la question. Ça se débrouille, quoi. Et je pense que ça serait intéressant, mais je passe sous le contrôle de Ganel, là aussi. Même dans cette institution, on pourrait sans doute encore faire quelques avancées. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, André.
Ben, moi, c'était juste, effectivement, de vous remercier pour tous ces échanges. C'était extrêmement riche et vraiment à un niveau très, très... très, très impressionnant, avec des outils. On a découvert des outils, on a vu des expérimentations. Donc, c'est vraiment toujours des moments très importants pour nous aussi, pour Tempo Territorial, justement, pour se renourrir, pour aller plus loin. Et je voulais donc remercier à tous nos intervenants d'avoir été là, à Xavier aussi d'avoir animé ce séminaire, à Catherine et Nolwenn pour l'organisation, et puis aussi... à Catherine, Lucie, Dominique, Emmanuel, Louis, Patrick et Joris pour la rédaction. Donc juste, je vais le remontrer, de ce guide que je vous invite donc de lire et de relire et de diffuser, parce qu'à mon avis, ça peut être une source très, très riche.
Il y a une version numérique, bien sûr. Hein.
Oui, bien sûr, qui va être publiée sur notre site de Tempo Territorial dès aujourd'hui. Et juste de vous annoncer le prochain rendez-vous de Tempo Territorial, qui seront notre colloque annuel Les Temporels, et qui auront lieu à Strasbourg le 7 et 8 novembre. Alors, on a trouvé, il est tout frais, notre titre. Peut-être il va encore bouger, mais on s'est dit, certainement, ça va s'appeler « Du temps pour soi, un droit pour tous, l'apport des politiques temporelles » autour de la question du droit au temps. Et ça sera l'occasion aussi de faire un petit bilan sur peut-être les 10 dernières années, qu'est-ce qui a été fait en termes de politique temporelle, et avec un regard sur l'Europe, parce qu'il y aura parce qu'on a des partenaires dans d'autres pays européens, notamment en Espagne, en Italie, en Belgique et en Allemagne, qui vont être présents et qui vont aussi apporter leur vision et leurs expériences en termes de politique temporelle. Donc le 7 et 8 novembre à Strasbourg, je vous invite à venir.
Rendez-vous est pris.
Beaucoup.
Merci Katia Kruger, merci André Koch. Et nous avons 3 minutes d'avance sur l'horaire initialement prévu pour la fin de cette journée. Merci à tous de votre attention et de votre participation active. Très bonne soirée, bon retour chez vous, excellent week-end et à bientôt.